Vous écoutez On lit pour vous.
Un médicament porteur d'espoir. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 septembre 2024 dans la presse. Un médicament contre la démence pourrait aussi aider les gens qui souffrent de troubles alimentaires, révèle une nouvelle étude montréalaise publiée à l'été 2024. Des résultats préliminaires récoltés auprès de patientes torontoises sont encourageants. La souris. Tout a commencé en 2015 avec l'identification de mutations génétiques qui semblaient liées aux dépendances ainsi qu'aux troubles alimentaires. On a fait faire une souris qui exprimait cette mutation humaine, explique Salah El Mestikaoui, chercheur à l'Université McGill et auteur principal de l'étude publiée en juillet dernier dans Nature Communication, une revue scientifique ayant des bureaux de rédaction à Londres, Berlin, New York et Shanghai. On était capable soit de rendre la souris dépendante, soit de rendre la souris boulimique ou anorexique, ajoute-t-il. Ce modèle animal d'anorexie, ces souris mutantes courent au lieu de manger, a permis de constater qu'il leur manquait une molécule appelée acétylcholine. Il s'agit d'un neurotransmetteur qui établit une communication entre les neurones. Il y avait justement un médicament qui faisait beaucoup jaser à l'époque, le donépézil, qui augmentait la quantité d'acétylcholine. Appelé Aricept, ce médicament est utilisé pour ralentir la progression de l'Alzheimer. Comme les souris avaient un déficit d'acétylcholine, on a décidé d'essayer l'Aricept chez les souris mutantes anorexiques, explique le neuroscientifique du Centre de recherche Douglas, affilié à l'Université McGill. Ça a très, très bien marché. La grande avancée de cette découverte était de comprendre le mécanisme de l'anorexie. Ça explique neurologiquement l'anorexie, dit-il. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas ce qui se passait au niveau des neurotransmetteurs et des neurones avec l'anorexie. Essai compassionnel. Il y a quelques années, par l'entremise d'un ami commun, Salah El Mestikaoui a rencontré Leora Pinhas, une psychiatre de Toronto spécialiste des troubles alimentaires. Ce qu'il m'a raconté sur l'acétylcholine avait du sens, raconte-t-elle. On a décidé d'essayer le donépézil pour un essai compassionnel avec des patientes qui avaient essayé plusieurs traitements sans succès. Jusqu'à maintenant, le donépézil a toujours réussi à éloigner de l'anorexie la vingtaine de patientes de la docteure Pinhas qui l'ont essayé. Certaines l'ont pris pendant quelques mois, quelques-unes continuent. La patiente qui en prend depuis le plus longtemps est arrivée à 1 an et demi. C'est certainement très encourageant. La patiente. Il y a 10 ans, Madeleine Ibergen a commencé le cycle de restrictions alimentaires et d'exercices à outrance, typique de nombreux anorexiques. Je suis arrivée à un point où j'ai perdu ma place dans l'équipe d'athlétisme de l'université parce que j'étais trop maigre. Je n'avais plus de force, raconte-t-elle. Il y a 2 ans, sa psychiatre, la docteure Pinhas, lui a proposé d'essayer le donépézil. Au bout de 6 mois, elle était transformée. J'ai enfin réussi à changer mes habitudes d'exercice et d'alimentation. J'ai réussi à faire un voyage au parc algonquin avec mon groupe de traitement. Je peux même envisager de voyager en Hollande, d'où ma famille est originaire. Madeleine Ibergen a réintégré l'équipe d'athlétisme et poursuit ses études de kinésiologie à Toronto. Ça fait 18 mois que je ne prends plus le donépézil, mais je continue à prendre du mieux. Elle donne un conseil aux patientes qui prendront du donépézil. Je suis convaincue qu'il faut le prendre tout en continuant sa psychothérapie. Une possible révolution. Ces résultats chez la souris et chez l'humain sont très, très encourageants, signale M. El Mestikaoui. Ils doivent toutefois être confirmés par un essai clinique en double aveugle où ni les patientes ni les médecins ne savent si on utilise le donépézil ou un placebo. L'essai bat son plein dans deux hôpitaux américains et un hôpital français. On devrait avoir des réponses en 2025, dit M. El Mestikaoui. Si les résultats de l'essai compassionnel se confirment, ce sera une révolution selon lui. Il lui faut aussi poursuivre les essais chez la souris pour démontrer un lien causal entre l'acétylcholine et l'anorexie chez des souris normales. Ces travaux impliquent aussi une autre molécule du cerveau, la dopamine, qui est visée par plusieurs médicaments psychiatriques. Compulsion. Le donépézil agit en diminuant les compulsions alimentaires et d'exercice au cœur de l'anorexie, pense Salah El Mestikaoui. Notre théorie, dit-il, c'est que les troubles alimentaires et les troubles obsessifs compulsifs ont un cœur commun, la compulsion. On fait et refait des choses malgré leurs conséquences négatives. C'est un peu comme un disque rayé dans le cerveau qui ordonne de faire et refaire les choses. Le donépézil permettrait de désactiver cette compulsion. Sans cette pulsion puissante de répétition des comportements néfastes, les habitudes peuvent être modifiées grâce à une psychothérapie. L'ABC de l'anorexie. L'anorexie est la maladie psychiatrique la plus mortelle, rappelle M. El Mestikaoui. On utilise des médicaments comme des antidépresseurs, mais il n'y a aucun médicament spécifique pour traiter cette maladie épouvantable qui tue. Il y a trois étapes dans le développement de l'anorexie, explique-t-il. Au départ, on recherche du plaisir en faisant un régime ou de l'exercice pour perdre du poids. Ensuite, chez les gens qui ont une vulnérabilité à la compulsion, il y a une escalade de ces comportements et on en perd le contrôle. Et à la fin, il y a la pathologie, l'anorexie. En savoir plus, 2,7 millions, nombre de Canadiens qui ont ou ont déjà eu un trouble alimentaire, source, Initiative nationale pour les troubles alimentaires, 11 fois. Risque d'hospitalisation pour un trouble alimentaire chez les filles par rapport aux garçons au Canada entre 2010 et 2022. Source, Journal of Eating Disorders. C'était un médicament porteur d'espoir, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 septembre 2024 dans la presse.
Le droit de ne pas se faire traiter de pute. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 19 septembre 2024 dans la presse. L'opposition à l'Hôtel de Ville, l'Association canadienne des libertés civiles et bien d'autres encore ont reproché à Valérie Plante d'avoir désactivé la fonction des commentaires sur la plateforme X. Atteinte à la démocratie, manque de transparence, scandale. La mairesse de Montréal a pris cette décision après une accumulation d'insultes proférées à son endroit depuis des années sur le réseau social. Des petites douceurs comme « bitch »,« pute »,« salconne »,« truie ». Vous voyez le topo. Ces commentaires violents, souvent publiés par des trolls anonymes sous ses publications, n'avaient en général aucun lien avec son propos. Leur but, dénigrer pour dénigrer, salir pour salir, des commentaires haineux. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses politiques, ou celles de son parti, Projet Montréal, rien ne justifie de telles attaques. D'autant qu'elles ne font en rien avancer le débat sur la gestion de la métropole, et Dieu sait qu'il y a des problèmes dont il faut débattre intelligemment ces jours-ci. Vous l'aurez compris, je ne partage pas l'émoi de ceux qui ont lancé la pierre à Valérie Plante pour sa décision. Le réseau X sombre dans les bas-fonds depuis son acquisition par Elon Musk, un libertarien multimilliardaire, en 2022. Les tweets et commentaires misogynes, racistes et homophobes y prolifèrent en toute impunité au nom de la liberté d'expression absolue. Cette plateforme, auparavant une mine d'or pour s'informer et réseauter, ressemble de plus en plus à une jungle nauséabonde. Plusieurs utilisateurs lui ont tourné le dos précisément pour cette raison, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, en 2023. Valérie Plante aurait-elle aussi pu fermer son compte sur X? C'est vrai. Elle a plutôt choisi une solution mitoyenne en supprimant la section des commentaires. Elle garde ainsi toute la visibilité que lui offre le réseau auprès de ses 123 000 abonnés sans que personne n'ait la possibilité de renchérir ou de nuancer ses publications. Les critiques proférées depuis une semaine tournent beaucoup autour de cette nouvelle façon unidirectionnelle de communiquer sur X. Là où je décroche, dans le déluge des vitupérations qu'a subi Valérie Plante, c'est qu'elle reste très active sur d'autres réseaux sociaux. Elle publie à un rythme soutenu sur Facebook et Instagram, et il est toujours possible d'y commenter tous ses statuts. Ça va dans les deux sens. Les membres de son équipe de relations publiques purgent les messages les plus orduriers, mais ses détracteurs ont encore amplement d'espace pour s'exprimer. Et ils ne s'en privent pas. Qu'importe le sujet abordé, Plante encaisse un torrent de griefs. Il tourne souvent autour des maudites pistes cyclables, de la perte de stationnement payant, de la gestion des vidanges, du gaspillage de fonds publics. Ça vient avec la job, et la mairesse l'assume très bien. Mais sur X, les commentaires reçus étaient devenus essentiellement des insultes, m'a-t-elle dit mercredi 18 septembre 2024 en entrevue. Pire, les rares citoyens qui écrivaient une opinion un peu articulée se faisaient eux aussi souvent injurier de façon brutale, ajoute-t-elle. Pour moi, c'était comme une question de principe, m'a-t-elle expliqué. J'ai dit non, je ne veux pas accepter ça. Et comme personnalité publique, je me dis que j'ai aussi une responsabilité ou, en tout cas, une opinion à partager là-dessus que c'est tolérance zéro sur les insultes en ligne. Ça ne me tente pas de banaliser. Elle défend sa décision d'avoir maintenu son compte actif pour pouvoir continuer à s'y informer et à diffuser des communiqués. Mais qui sait? Je ne sais pas ce que ce sera dans le futur. Outre les réseaux sociaux, les citoyens ont d'autres forums pour exprimer leur doléance envers l'administration Plante. Pensons aux conseils municipaux et d'arrondissement, une tribune de choix malgré des débordements occasionnels. La mairesse prend aussi part à des points de presse réguliers où elle répond aux questions des journalistes sur les sujets de l'heure. Mais, pour en revenir aux réseaux sociaux, on remarque une tendance lourde. Valérie Plante diffuse une quantité impressionnante de capsules vidéo à l'esthétique léchée sur Instagram, souvent un petit micro à la main, un peu à la manière des influenceurs. Certains parlent en coulisses de la mairesse Instagram. Ce n'est pas dit comme un compliment. Sa forte présence sur les réseaux sociaux a causé des flammèches à la Miou lorsque des inondations historiques ont déstabilisé plusieurs quartiers de la métropole. Pendant des jours, alors que des centaines de Montréalais avaient les pieds dans l'eau, la mairesse n'était pas en train de visiter des sinistrés. Sur son compte Instagram, on pouvait la voir dans des cafés de quatrième génération, en train de danser sur un char allégorique à la fierté, etc. Le décalage entre son absence sur le terrain et sa présence sur les réseaux sociaux a choqué bien du monde pendant la crise. Elle s'est excusée quelques jours plus tard. Dans la même veine, les journalistes qui couvrent le beat municipal, autant à la presse que dans d'autres médias, sont souvent surpris de découvrir sur les réseaux sociaux que Valérie Plante a pris part à tel ou tel événement auquel ils n'ont jamais été conviés. Comme pour les premiers ministres ou les ministres, l'agenda public de la première magistrate de Montréal doit normalement être partagé avec les médias. Ce n'est pas toujours le cas. Encore cette semaine, les journalistes ont été informés à la dernière minute que Valérie Plante participera à une importante mission économique à New York dès ce jeudi. Parfois, ils l'apprennent après coup sur les réseaux sociaux. Un groupe de journalistes affectés à l'hôtel de ville a envoyé une lettre au cabinet de la mairesse Plante en avril 2023 pour décrier cette façon de faire. Elle nuit à la capacité des médias d'informer la population et, par le fait même, au droit du public à l'information, ont-ils plaidé avec justesse. Valérie Plante défend son utilisation fréquente d'Instagram et de Facebook comme étant complémentaire au travail essentiel des médias traditionnels. Elle la voit comme une façon de partager davantage les bonnes nouvelles, les choses qu'on fait qui sont peut-être plus petites, plus locales. Une tendance de plus en plus marquée chez les politiciens, ici comme ailleurs, il faut le souligner. La relation entre la mairesse, les réseaux sociaux et les journalistes est perfectible, c'est clair. Il y aura encore des accros. Je salue néanmoins sa décision de sonner l'alerte par rapport à la haine de plus en plus répandue sur les réseaux sociaux, par rapport au fait qu'elle ne devrait jamais être tolérée, qu'on soit élu ou citoyen lambda. Elle a fait un geste concret en ce sens, en sortant au moins un pied de cette fosse à purin qu'est devenue la plateforme X. C'était « Le droit de ne pas se faire traiter de pute », un texte de Maxime Bergeron, paru le 19 septembre 2024 dans La Presse.
Les suffragettes de la civilité. Un texte de Joël Denis, Belle Avance, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse. Des parlementaires, en majorité des femmes, estime qu'il est temps de prendre les moyens pour combattre le harcèlement et l'abus, des mots qui sont devenus monnaie courante sur la colline du Parlement à Ottawa, selon elle. Des députés et des sénatrices ont récemment signé un engagement parlementaire dans lequel elles promettent de dénoncer le harcèlement chaque fois qu'elles en seront témoins à la Chambre des communes, au Sénat ou encore durant les réunions de comités. Un geste qui en dit long sur le climat politique malsain qui s'est installé dans la capitale fédérale, où un parfum de campagne électorale se propage depuis que le chef du nouveau Parti démocratique, NPD, Jagmeet Singh, a décidé de déchirer l'entente de soutien avec les libéraux de Justin Trudeau. L'idée d'une telle initiative a été lancée à la fin de juin 2024 par la députée du NPD, Lindsay Matheson, et la sénatrice non affiliée, Marilou McFedrin. Elles sont coprésidentes de l'Association canadienne des parlementaires féministes. Depuis qu'elles ont lancé cette croisade, une trentaine de parlementaires ont répondu à l'appel en apposant leur signature au bas d'une lettre qui constitue une promesse solennelle de leur part. Cette démarche est sans précédent sur la scène fédérale. L'engagement parlementaire tient sur une page. Il contient 4 énoncés qui vont à l'essentiel. Dénoncer les abus et le harcèlement. Soutenir les femmes qui occupent des fonctions publiques. Opter pour le débat respectueux et non des attaques personnelles. Et au besoin, appeler les autorités compétentes pour assurer la protection des personnes qui dénoncent les abus ou qui en sont victimes. Madame Matheson s'est inspirée d'une initiative semblable qui a été menée par des femmes siégeant au conseil municipal de la région de Halton, en Ontario, au printemps 2024. Dans cette région, une lettre de la députée libérale d'Oakville-Nord, Burlington, Pam Damoff, a été l'élément déclencheur. Dans cette lettre, à l'intention de ses électeurs, Mme Damoff a annoncé qu'elle renonçait à l'idée de se représenter aux prochaines élections à cause de la misogynie, des menaces et des commentaires hargneux dont elle a été la cible au cours des dernières années. Les menaces et la misogynie que j'ai vécues en tant que députée sont telles que j'ai souvent peur de sortir en public. Et ce n'est pas une façon durable ou saine de vivre, avait-elle expliqué, ajoutant que les réseaux sociaux avaient empiré la situation. Cette lettre a aussi causé une onde de choc au sein de la classe politique à Ottawa. Madame Damoff, qui a été élue pour la première fois en 2015, a été invitée à comparaître devant un comité parlementaire après la diffusion de sa lettre. Salope, brûle en enfer. J'espère et je prie Dieu pour que vous mouriez d'une mort horrible et douloureuse, ainsi que votre famille, parce que vous et vos gènes êtes une merde et devez être retirés de la planète. Voilà quelques exemples des menaces qu'elle a reçues. Elle a soutenu que le ton hargneux et rageur des députés conservateurs à la Chambre des communes, encourage ces dérapages. C'est aussi à ce moment que l'idée de signer un engagement parlementaire a pris son envol. Pour la plupart d'entre nous, le Parlement a été un lieu de travail gratifiant. Mais pour un nombre croissant d'entre nous, ces dernières années, il est également devenu un environnement toxique. Nous avons tous vu, à tous les niveaux de gouvernement, le nombre d'élus qui ont décidé de ne pas se représenter et ou quitter la politique à cause du harcèlement. Malgré tout, le Parlement est ce que nous en faisons et nous sommes nombreux à vouloir l'améliorer. Peut-on lire dans un document préparé par Mesdames Matheson et McFedrin qui a été envoyé à leurs collègues pour les convaincre de se joindre au mouvement. Extrait de l'engagement parlementaire de l'Association canadienne de parlementaires féministes, ACPF. Il est temps de prendre au sérieux la création d'un environnement sûr et favorable qui encourage tous les individus à participer au processus politique sans craindre les abus ou la discrimination. Notre démocratie en dépend. En entrevue, Mme Matheson a expliqué qu'avant d'être élue députée de London Fanshawe en 2019, elle a travaillé comme adjointe pour la députée néo-démocrate Jean Crowder. J'ai donc vu le respect décliner au cours des dernières années, non seulement entre les députés, mais aussi envers l'institution elle-même. Le point de non-retour est survenu quand le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a été expulsé des communes au printemps après avoir traité le premier ministre Justin Trudeau de cinglé, wacko en anglais. Les députés conservateurs sont sortis aussi en même temps que lui, en levant les bras dans les airs et en célébrant presque ce qui venait d'arriver. Ils se félicitaient d'avoir miné ce que représente le Parlement. J'étais tellement choquée. Il y a deux choses que tu peux faire dans la vie. Tu peux en parler et simplement baisser les bras. Ou tu peux essayer de changer les choses. C'est l'option que j'ai choisie. Les comportements irrespectueux qui sont devenus la norme aux communes offusquent même les écoliers qui visitent les lieux le jour. Lindsay Madison témoigne. Des enfants qui vont à l'école viennent dans les tribunes et voient ce spectacle. Ils nous disent « Pourquoi ces gens, qui sont censés être respectés et respectables, ont adopté un tel mauvais comportement? » Ce sont des enfants qui nous disent cela. C'est embarrassant. La députée bloquiste Andréanne Larouche n'a pas hésité à signer l'engagement parlementaire. Depuis plusieurs mois, on voit qu'il y a une polarisation et ça crée des tensions et de la violence. Évidemment que cela se répercute sur le climat qui règne et les relations qui existent entre les députés. On a vu de l'intimidation de deux sénatrices. On a même donné l'adresse de leur domicile. Elles se sont senties menacées. Et c'était entre des parlementaires. Il y a une accumulation d'événements inquiétants. Selon Mme Larouche, il n'est pas étonnant de voir des femmes parlementaires prendre cette initiative. On a la réputation d'être moins partisane, de privilégier une approche constructive. Au début du dernier siècle, des femmes ont mené une lutte de tous les instants au pays pour obtenir des droits égaux à ceux des hommes, notamment le droit de vote. Elles s'appelaient les suffragettes. Aujourd'hui, des femmes entreprennent une autre bataille dans l'enceinte de la démocratie canadienne. Elles pourraient s'appeler les suffragettes de la civilité. C'était Les suffragettes de la civilité, un texte de Joël Denis, Belle Avance, paru le 9 septembre 2024 dans La Presse.